Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec beaucoup de plaisir. Avec dans un instant le journal d'Isabelle Millet. Juste après, on ouvrira ensemble, comme tous les soirs, le débat du Club des idées. On va parler de la droite, bureau politique des Républicains mardi soir. Une famille éclatée. Et quelles idées? Vous prenez, vous aussi, la parole. 39-21. Mais d'abord, le point sur l'info avec vous, Isabelle Millet. Rebonsoir, Isabelle.
Rebonsoir, Thierry.
Merci d'écouter Europe 1. Bon début de soirée, 19h.
Après un an sans ça. On est super contents de retrouver ça et ça nous fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est top.
Ces organisateurs promettent une édition quasiment comme avant. Coup d'envoi ce soir du Festival des Vieilles Charrues après une année faite d'incertitudes et de rebondissements.
Allons-nous pouvoir partir en Espagne ou au Portugal cet été? Le gouvernement français déconseille ces deux destinations.
Pour cause de recrudescence du variant Delta, la Catalogne en particulier est dans le viseur. On sera en direct de Barcelone avec Henri Delaguerie.
Le procès du meurtrier présumé de Patricia Bouchon, 20 ans de réclusion requis en appel contre Laurent Dejean.
Joe Biden s'exprime ce soir sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Retrait quasiment achevé, mais qui inquiète beaucoup. Déjà, les talibans tentent de s'imposer dans le nord du pays.
Sur la croisette, Sandrine Kiberlin se dévoile non plus en tant que comédienne, mais en tant que réalisatrice. Elle présente son tout premier film.
La 12e étape du Tour de France, remportée en solitaire aujourd'hui par l'Allemand Nils Polita.
La tendance météo, Marlène Duré.
Plein soleil au sud, de très belles éclaircies sur le reste du territoire, avec une exception pour la Bretagne, la Normandie, une partie des Pays de la Loire, où le ciel va rester chargé en nuages. Prévision détaillée à la fin du journal.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après une année blanche due à la pandémie, c'est le signe d'un retour à la vie d'avant. Le Festival des Vieilles Charrues, une institution, premier gros festival de l'été. Il se tient à partir de ce soir.
Et les organisateurs ont tout fait pour que les contraintes sanitaires ne viennent pas gâcher la fête. On pourra danser, chanter et trinquer.
Oui, les premiers concerts démarrent d'ailleurs d'ici quelques minutes. Angèle Châtelier, vous êtes sur place pour Europe 1 et vous nous confirmez qu'il règne une certaine fébrilité. C'est qu'on les a attendus, hein, ces Vieilles Charrues.
Oui, vous entendez derrière moi les balances de la chanteuse grecque Marina Sati, qui sera la deuxième artiste à jouer ce soir. Alors les portes, elles, ont ouvert il y a un peu plus d'une heure. Le public est en train de s'installer soit sur les gradins, soit en fosse près de la scène, même si un gros parterre de la fosse est inaccessible au public à cause de plusieurs centimètres de boue. Mais ces festivalières que j'ai pu rencontrer s'en moquent complètement. L'important, c'est qu'on revive.
On est super contents de retrouver ça et ça nous fait vraiment plaisir. C'est top après un an sans ça.
Ça fait du bien de voir du monde et tout. Ça redonne un peu de joie, un peu de bonheur.
Alors après une pandémie, une annulation et depuis plusieurs jours une pluie battante, Jérôme Tréhoret, le directeur du festival, lui se remet de ses émotions et compte bien se reposer l'esprit. Ça y est, le festival est enfin lancé.
C'est un vrai soulagement et heureux de tout son tout ce travail tout au long de l'année, tous ces combats, pour enfin revivre le plaisir des moments de live et ces rencontres entre le public et les artistes.
Cependant, il est bien conscient que le festival ne sera pas à l'équilibre cette année. La moitié des billets n'ont pas encore été vendus, mais comme il le dit, ça va décoller. Il reste encore 9 soirées de concerts.
Et vous avez bien de la chance. Merci Angèle Châtelier à Carhaix dans le Finistère pour le couvent d'envoi de ces Vieilles Charrues en partenariat avec Europe 1.
Et d'ailleurs ce soir on retrouvera Émilie Mazoyer à partir de 22h sur l'antenne. Ceux qui avaient l'intention de poursuivre la fête cet été en Espagne ou au Portugal vont peut-être devoir renoncer à leur projet.
Deux destinations clairement déconseillées par les autorités françaises en raison de la propagation du variant Delta. Le secrétaire d'État aux affaires européennes l'a dit ce matin, si vous le pouvez, évitez ces deux pays.
Et ça concerne notamment la Catalogne, destination très prisée des Français. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Barcelone, Henri Delaguerie. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment vit-on, Henri, sur place, ces recommandations du gouvernement français?
Écoutez, elles sont mal vécues. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à les qualifier d'inamicales. Le secteur du tourisme, il faut le dire, représente 13% des emplois en Espagne. Clément Beaune a donc ciblé en particulier la Catalogne. Or, dans cette région, les Français représentent plus du quart des touristes étrangers. Ils commençaient tout juste à revenir. Écoutez Benet Ferrer, propriétaire de l'hôtel Ola dans le centre-ville de Barcelone.
En toute logique, c'est quelque chose de très négatif pour notre secteur. Avec cette recommandation, on risque d'avoir un été désastreux pour le secteur touristique.
En tout cas, les Français déjà sur place n'ont pas l'intention de modifier leur plan. Bénédicte passe un séjour en famille d'une semaine. Elle vient d'Île-de-France et elle ne compte pas rentrer plus tôt, malgré les recommandations de Clément Beaune.
Je comprends son inquiétude, mais bon, on prend nos précautions, on circule avec les masques, on a du gel, même en rentrant dans les magasins, donc il y a des précautions. Avant de partir aussi, on devra faire un test, donc je pense que ça peut passer, quoi.
Mais c'est vrai, le virus circule activement, surtout chez les plus jeunes. La vaccination des moins de 30 ans a commencé beaucoup plus tard ici que dans le reste de l'Europe. Cela signifie aussi que le nombre de personnes hospitalisées pour 100 000 habitants reste plus faible en Espagne qu'en France. Ce soir, 43% des Espagnols sont vaccinés. C'est 6 points de plus qu'en France.
Merci Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1. Vous étiez en direct de Barcelone. Aujourd'hui, Jean Castex a redit l'importance de la vaccination. Justement, on en parlait. Le Premier ministre qui a également précisé que les personnes les plus fragiles devront certainement recevoir une troisième dose pour renforcer leur défense immunitaire.
Le procès du meurtrier présumé de Patricia Bouchon, cette joggeuse qui avait été assassinée en février 2011 à Boulogne, au nord de Toulouse.
Son corps avait été retrouvé 42 jours plus tard à 10 km de chez elle. Après de longues investigations, un suspect, Laurent Dangean, avait été identifié. Il a toujours nié les faits. Il avait été condamné en première instance à 20 ans contre l'avis du parquet général qui réclamait à l'époque l'acquittement. Benjamin Peter, vous venez d'assister aux réquisitions et cette fois, l'avocat général a demandé au juré de le condamner à 20 ans de prison.
Oui, l'avocat général a requis 20 ans assorti d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans dès sa sortie de prison, alors même qu'en première instance, son collègue avait demandé l'acquittement. Manifestement, nous n'avons pas vu le même accusé, justifie-t-elle. Un Laurent des gens plus combatif, plus volubile, qui élude par un je ne sais pas laconique dès qu'une question le dérange. On a pu voir vos revirements, vos mensonges, ajoute-t-elle, avant d'exposer longuement ses certitudes. Sur le caractère violent et intolérant à la frustration de Laurent Desjean, capable de casser tout un appartement, sur ses déclarations ambiguës en garde à vue, donnant des précisions sur les blessures de la victime qu'il ne peut pas connaître, embrassant même la photo de Patricia Bouchon, sur le portrait robot, enfin, sur lequel beaucoup l'ont reconnu, avec son bonnet qu'il ne quitte jamais. J'ai entendu qu'on avait fabriqué un coupable, lance-t-elle à la défense. Non, les investigations ont révélé un coupable, avant de s'adresser une dernière fois à l'accusé qui n'aura jamais reconnu les faits, comme l'espérait tant pourtant la famille de Patricia Bouchon. Elle va vous hanter à vie, vous vous êtes condamné à perpétuité, c'est tant pis pour vous.
Benjamin Peter qui suit ce procès pour Europe.
Malgré les pressions et la condamnation de l'Union européenne, la loi discriminant les personnes LGBT est entrée en vigueur aujourd'hui en Hongrie. Un immense cœur arc-en-ciel a été déployé devant le Parlement de Budapest par des associations.
19h06 aux États-Unis, Joe Biden doit prendre la parole ce soir pour évoquer le retrait des troupes américaines d'Afghanistan.
C'est un retrait qui suscite de vives inquiétudes quant à la possibilité d'une guerre civile dans la région, le retour en force des talibans. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en direct de Washington. Sonia, vous avez obtenu une interview exclusive du général Petraeus. Clairement, l'inquiétude monte aux États-Unis.
Oui, Joe Biden pense qu'il n'y a pas de solution militaire en Afghanistan. C'est ce qu'il devrait répéter dans le discours qu'il prononcera ce soir depuis la Maison Blanche. Il devrait également donner plus de détails sur l'aide humanitaire et sécuritaire que Washington va continuer d'apporter à Kaboul. Mais de nombreux élus républicains et des militaires dénoncent cette décision. Ils s'inquiètent des conséquences de ce retrait alors que les talibans regagnent rapidement du terrain dans le nord du pays. Le général Petraeus s'est confié au micro d'Europe 1. Sa voix fait écho aux États-Unis puisque c'est l'ancien commandant des forces américaines en Afghanistan.
Je crains que d'ici 2-3 ans, nous regrettions cette décision de retirer les quelques 3500 troupes américaines qu'il reste. Cela signifie évidemment aussi que les 7000 soldats de la force de la coalition doivent se retirer. Cela ne va pas mettre un terme à la guerre sans fin en Afghanistan, cela va simplement mettre un terme à l'engagement militaire des États-Unis et de la coalition dans cette guerre.
Les États-Unis ont quitté la semaine dernière la base aérienne de Bagram, centre névralgique de toutes leurs opérations militaires dans le pays. Beaucoup craignent aussi pour le sort des Afghans qui ont travaillé pour les Américains. Pour l'instant, Joe Biden a le soutien de l'opinion publique, lassée des guerres sans fin au Moyen-Orient.
Merci beaucoup Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 en direct de Washington.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Et dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Après Sandrine Kiberlin, la comédienne, on vous présente Sandrine Kiberlin, la réalisatrice.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h10, la suite du journal d'Isabelle Millet sur Europe 1. Et on prend la direction de Cannes, Isabelle, où Sandrine Kiberlin présente son tout premier film en tant que réalisatrice.
Oui, ça s'appelle Une jeune fille qui va bien et ça raconte l'histoire d'une jeune fille dont la vie est percutée par l'histoire avec un grand H, Mathieu Charrier.
Exactement. Cette jeune fille, elle s'appelle Irène, elle est pleine de vie, elle a 19 ans, elle vit à Paris, elle est passionnée de théâtre, voilà, enchaîne les relations amoureuses, passe du bon temps, ce qui ressemble finalement à une jeunesse assez banale mais heureuse. Sauf que, j'ai oublié de vous préciser que nous sommes en 1942 et qu'Irène est juive. Alors si elle tente de vivre le plus normalement possible, son père lui angoisse, sa grand-mère s'inquiète, son petit frère ne sait pas trop quel camp choisir. Voilà le thème lourd qu'a choisi Sandrine Kiberlain pour son premier film comme réalisatrice.
Tout est parti de 1000 témoignages, en fait, de Simone Veil qui disait s'être baignée à La Ciotat en 42, et puis une de ses copines n'est pas revenue de La Poste, du journal d'Hélène Baird, où elle, en une phrase, elle dit « il fait toujours beau les jours de catastrophe ». Je suis partie de ce principe, qu'est-ce qui se passe juste avant que ça bascule? Parce qu'avant que tout aille mal, tout va bien, quoi. On l'a vu, nous, dernièrement, avec la pandémie, donc il faut un point de vue pour oser.
Une jeune fille qui va bien, qui est présentée ici en sélection parallèle à la semaine de la critique. Mais je peux vous dire que les billets pour la séance qui vient tout juste de commencer se sont arrachés. Et c'est mérité, tant il est plein d'humanité, ce film. C'est un film troublant. On ne peut évidemment s'empêcher, comme le disait Sandrine Kiberlain, de le transposer à des situations d'aujourd'hui, des situations d'actualité. Donc notez bien le titre, Une jeune fille qui va bien, il devrait sortir dans les salles en janvier prochain. Et vraiment, il est à voir.
C'est noté et vous nous avez donné envie. Merci Mathieu Charrier, envoyé spécial d'Europe 1 à Cannes. Des Jeux Olympiques à huis clos, il fallait s'y attendre. Il n'y aura pas de spectateurs dans les tribunes à Tokyo du 23 juillet au 8 août pour cause, là aussi, de recrudescence de cas de Covid dans la capitale japonaise.
Et on prend tout de suite la route du Tour.
Le Tour de France. L'événement est sur Europe 1.
Avec une 12e étape remportée à Nîmes, non pas cette fois par Mark Cavendish, qui n'égale donc toujours pas le record d'Eddy Merckx, mais par l'Allemand Nils Polit, en solitaire au terme d'une longue échappée. Stefan Kung était dans cette échappée. Il est Suisse, il a fini 4e et il confie qu'il a beaucoup souffert sur cette étape.
Je suis vraiment allé au bout. Je sentais dès le début que, après cet tour tellement difficile jusqu'à présent et avec la journée d'hier, que j'avais juste pas assez de réserve aujourd'hui pour jouer la gagne. Je me suis accroché, j'ai tout donné. Puis après, j'ai commencé à cramper et tout. Juste mon corps, il était au bout et je pouvais pas faire plus aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'on est 12e jour du tour et un tour particulier. Je crois un tour dur comme je l'ai jamais vécu et c'est quand même en 5e. Aujourd'hui, je savais que ça pouvait être une bonne étape pour l'échapper. Donc je me suis mis, mais comme j'ai dit, j'étais vide en fait. Je suis juste mort et j'essaie de récupérer.
C'est dur le Tour de France. Le Suisse Stefan Kung, 4e de l'étape du jour, donc au micro européen de Marguerite Lefebvre. Pogacar conserve le maillot jaune.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy, l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Deux dernières infos en foot, Didier Deschamps confirmé à la tête des Bleus et Sergio Ramos qui, ça y est, a signé au PSG pour 2 ans.
C'était le journal d'Isabelle Millet. À demain Isabelle, bonne soirée.
À demain.
La météo, Marlène Duré. Alors, une belle journée demain, mais pas pour tout le monde, notamment ceux qui sont au nord.
Oui, les grands perdants se trouvent dans le nord-ouest, Thierry. Alors déjà, le matin, on va se réveiller sous un ciel gris dans les régions bordant la Manche, ainsi qu'en Bretagne et sur une bonne partie des Pays de la Loire. Le soleil percera un petit peu l'après-midi, mais on n'exclut pas une petite averse. Et puis, ça va rester couvert, il faut le dire, sur la pointe bretonne. Sur le reste du pays, là, le soleil sera au rendez-vous dès le lever du jour. Parfois, il va falloir attendre que les phénomènes de grisaille s'évacuent, notamment en plaine de Bresse, en direction de la Bourgogne, mais aussi dans le Dauphiné, du côté du plateau Lorrain, dans les Hauts-de-France ou encore sur le piémont pyrénéen. L'après-midi, quelques petites averses peuvent se déclencher dans le nord-est. C'est quand même de belles éclaircies. Alors que le ciel va continuer à bien se dégager sur le tiers sud du pays, ce sera carrément le grand bleu. Et c'est le moment de se plonger justement dans les températures, les maxi 17 degrés. À Carré, où se tient le Festival des Vieilles Charrues. 22 à Angers, Saint-Étienne, 22 degrés du côté des plages girondines. À Lacanau, par exemple, 23 à Reims. Nous aurons 24 à Paris, 27 à Toulouse, 27 également, 27 sur la Croisette, ça rime. 32 à Perpignan ou encore du côté de la région varoise.
Merci beaucoup Marlène. Dans un instant, votre club des idées, on va parler de la droite. Mais tous les soirs de l'été, vous savez, hein, on a rendez-vous pour une découverte littéraire avec Stéphane Place en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Et ce soir, on va dans les coulisses du pouvoir. Un livre autour de Marie-France Garraud, la conseillère d'Olivier Faye.
En 1973, Newsweek l'a consacrée femme la plus puissante de France. Figure de la politique redoutée, elle avait toujours l'œil gourmand au moment de parler des gens qu'elle voulait assassiner, dira l'ancien ministre Albin Chalandon à l'auteur. Marie-France Garraud a assis son pouvoir dans l'ombre, dans la coulisse. D'où l'intérêt évident de ce livre que signe Olivier Faye. La conseillère, c'est le titre de cet ouvrage, raconte l'influence majeure de cette proche de Pompidou aux côtés de son grand complice, Pierre Juillet. Des pages qu'a lues avec beaucoup d'intérêt Amandine Pirard, libraire chez Mola.
J'ai 22 ans, donc en fait, Marie-France Garraud, tout simplement, je ne la connaissais pas. Et ce livre, ça a été pour moi l'occasion de découvrir une grande figure de la politique française des années 60 et 70. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, avec Marie-France Garraud, c'est qu'elle a été l'équivalent de ce qu'on appelle les spin doctors aux États-Unis, d'où ce titre de conseillère. C'était surtout une femme considérée comme impitoyable, très intransigeante, mais aussi en fait très respectée.
Juillet Garraud, ensemble, ils feront et déferont des carrières, insiste Olivier Faye.
On peut considérer que Pierre Juillet et Marie-France Garraud ont vraiment façonné un grand nombre de destins politiques. Pompidou a créé lui-même sa carrière en étant un compagnon de route du général de Gaulle après-guerre. Mais à la fin du mandat de Pompidou, quand Pompidou est malade, il se détache quand même beaucoup de la politique nationale. Garraud et Juillet vraiment prennent une importance considérable à ce côté. Ils décident vraiment de beaucoup de choses, à commencer par exemple, le départ de Jacques Chirac-Delmas de Matignon, puis certaines nominations ministérielles, à commencer par celle de Jacques Chirac, comme ministre de l'Intérieur en 1974. Et il pousse Chirac à soutenir Valéry Giscard d'Estaing, ce qui a été vraiment un moment très fondateur dans l'histoire des droites jusqu'à aujourd'hui. De là, ils ont vraiment poussé Jacques Chirac à avoir une ambition politique, là où Chirac était parfois assez inconstant, on va dire, ou assez hésitant sur la marche à suivre. Et surtout, ils l'ont poussé à suivre une ligne politique très cocardière, très souverainiste, quasiment nationaliste. Et ça a vraiment été quelque chose de très fort et de très matriciel pour Jacques Chirac. C'était à l'époque un jeune homme très doué, intelligent, ambitieux, mais aussi très incertain.
La relation de Chirac avec Juillet Garraud se terminera mal. Jamais à court d'une vacherie, la conseillère dira alors de son ex-poulain « Je croyais que Chirac était du marbre dont on fait les statues, il est de la faïence dont on fait les bidets. » C'est l'une des formules cruelles rapportées dans ce livre très documenté.
Excellent livre. Stéphane Place en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux.
Europe 1, Thierry Dagiral.
19h17 dans un instant sur Europe 1, votre club des idées. On continue à parler de la droite version coulisses. Est-elle prête pour 2022? Quelles sont finalement ses idées? Peut-elle exister entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Vous êtes militant ou pas? 39-21, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et ce soir dans le club des idées, mais où va la droite? Elle est dans tous ses états après cette victoire des sortants aux élections régionales. La course des petits chevaux de la présidentielle est lancée. Idéologiquement, elle semble au centre du jeu. Stratégiquement, c'est pourtant flou. Prise en étau finalement entre Emmanuel Macron et une Marine Le Pen qui essaie de la siphonner. Alors, quels sont les grands défis qui attendent la droite? On va en parler ce soir avec Roland Cayrol. Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Directeur de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po. Gaël Sliman en studio, président d'Odexa.
Bonsoir.
Bonsoir Gaël, merci d'être à vous. Et puis en ligne également avec nous, Brice Hortefeux. Bonsoir Brice Hortefeux.
Bonsoir.
Eurodéputé, conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, ancien du RPR, ancien de l'UMP, ancien des Républicains. Donc on a toute l'histoire de la droite avec vous, Brice. Aujourd'hui, donc, la droite est au centre de l'attention médiatique. Succès aux élections régionales, je le disais. Désormais, cap sur 2022. Est-ce qu'elle sort réellement renforcée de cette séquence politique, Roland Cayrol?
Écoutez, ce qui est important pour ces débats internes, c'est qu'elle en a l'impression. Mmh. Et donc, on se sent un peu revigoré quand on peut dire que la dernière élection a été bonne. Moi, comme politologue, je dirais que ça n'a probablement rien changé. C'est les sortants qui ont été réélus, et non pas spécialement ceux de droite, ceux de gauche aussi. Ouais. Et on voit bien qu'au niveau national, ça n'a rien à voir. Le comportement électoral présidentiel n'a strictement rien à voir avec les régionales. Mais nous savions, avant les régionales, qu'il y avait un espace à droite. Un espace à droite. Si vous avez aujourd'hui, tiens, je prends un sondage en moyen, 24% pour Macron, 18% pour Xavier Bertrand, parce que c'est lui qui est sondé souvent en ce moment, et c'est lui qui est le plus haut à droite. Mmh. Ça fait 6 points. On peut se dire, 6 points, mais si Bertrand prend 3 points à Macron, ça suffit, ils en ont 21 chacun. Ouais. Donc c'est un coup jouable. Le problème, c'est qu'elle est, de façon interne, pas en très bon état, cette droite.
Brice Hortefeux, la droite, pas en très bon état. Et finalement, les régionales n'ont rien changé. Vous êtes d'accord avec Roland Cayrol?
Je suis d'accord avec la dernière partie du raisonnement de Roland Cayrol. quelle est la réalité? Roland Cayrol a fait ce qui est normal, c'est son métier. Référence à des enquêtes d'opinion. Bon, il y a deux enquêtes, personnellement, qui me frappent. Il y a une première enquête qui est déjà ancienne, qui montre que deux Français sur trois, 66%, ne veulent pas d'un face-à-face Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Mmh. Donc ça, c'est un constat qui est un constat assez récurrent. Et l'élément nouveau avec les élections régionales, c'est que cela donne effectivement un sentiment d'espoir et qui apparaît là aussi dans les enquêtes d'opinion, puisque à peu près la même proportion considère que la droite républicaine peut l'emporter. Donc d'un côté, une très large majorité de Français ne veut pas revoir le match Macron-Le Pen, et désormais de l'autre côté, une majorité de Français, très large, considère que la droite républicaine peut l'emporter. Alors la question, c'est avec qui
et comment on va en parler, bien sûr,
le choisir,
bien sûr.
On a cité un nom, il y a naturellement d'autres possibilités, et c'est peut-être aussi une des marques de la droite républicaine, c'est qu'il n'y a pas une personne, il y en a plusieurs. Ouais. Une seule s'est déclarée, une seule a dit qu'elle irait quoi qu'il arrive, ce que je ne crois absolument
Bertrand.
Pas, mais la réalité, c'est qu'il y en a plusieurs et qu'il vaut que se mettre, c'est là l'enjeu, c'est d'ailleurs une bonne chose, qu'on se mette d'accord sur un processus de rassemblement et qu'à l'issue de ce processus, on soit rassemblé autour d'un candidat qui, j'en suis convaincu, pourra porter l'espoir de l'alternance.
Brice Hortefeux, juste rapidement, avant de donner de la parole à Gaël Slimane, vous qui avez été un très proche de Nicolas Sarkozy, qui avez connu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le RPR, l'UMP, les Républicains maintenant, il y a eu, c'était une évidence à droite, et c'est l'héritage du gaullisme finalement, il y avait Jacques Chirac, c'était une évidence. Il y a eu Sarkozy, même s'il y a eu une primaire, on l'a oublié, un peu factice, mais c'était une évidence également, la candidature de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais il n'y a personne qui s'impose à droite, personne.
Enfin, pardon, je vous oubliez quand même un élément majeur. C'est qu'en 1995, il y avait tellement d'évidence qu'il y en avait deux, puisqu'il y avait et Jacques Chirac et Édouard Balladur.
C'est précisément
l'exemple le plus flagrant qui soit.
Ouais, oui.
Et si l'on veut, puisque vous me renvoyez à quelques années en arrière, moi, tout jeune, engagé dans la vie publique, je me souviens que Michel Debré s'était engagé. Je me souviens que Marie-France Garros était engagé aussi.
Non, il y a bien sûr.
C'est, oui, mais c'était pas la famille, gaulliste. C'était la famille Giscard d'Estaing que j'ai côtoyé au conseil régional. C'est un de mes bons souvenirs. Mais enfin, c'était l'anti-gaullisme.
Mais ce que je veux dire, c'est que
la racine était anti-gaulliste.
Il y avait des poids lourds aujourd'hui. Ils n'existent aujourd'hui pas totalement au sein des Républicains.
Bon, écoute, vous savez, la notion de poids lourd, elle se décrète après. Hein. Sur l'instant, je ne suis pas sûr. À un moment donné, souvenez-vous, Jacques Chirac, il n'était pas au niveau. L'appel de Cochin en des élections européennes en 1979 le rendait absolument inéligible, enfin, et ainsi de suite. Il faut, dans ce domaine, être très, 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 très prudent et faire comme les politologues, indiquer l'avenir une fois que ça s'est déroulé. La réalité, c'est qu'il y a des personnalités, là je suis en désaccord avec vous, c'est qu'il y a des personnalités qui sont très différentes, qui incarnent des sensibilités, des histoires, des parcours. Et si vous prenez Bruno Retailleau, qui n'est pas aujourd'hui le candidat le plus évident, mais enfin, il incarne incontestablement une sensibilité.
On va en reparler, on va rentrer dans le détail dans un instant avec vous, Brice. Je voudrais juste donner la parole à Gaël Slimane, le président d'Odoxa. Comment la droite sort renforcée ou pas de ces régionales, Gaël ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a rappelé Roland Cayrol il y a un instant. En fait, il y avait un trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on avait une force politique importante qui existait, mais qui était un peu passée sous silence derrière un duel Macron-Le Pen, qui était d'ailleurs largement orchestré, si j'ose dire, ou mis en musique par les premiers intéressés. Mais la droite était déjà forte. Elle était forte au municipal, elle est forte assez régionale. Effectivement, elle a des succès électoraux largement parce que les Français ont souhaité reconduire des sortants qu'ils appréciaient plutôt, et puis parce qu'il y a eu une abstention massive. Sur le plan de la victoire symbolique, c'est bien une victoire symbolique pour la droite. Et on enregistre quand même dans les enquêtes d'opinion des poussées, assez logiquement, hein, de la plupart des favoris. Les fameux impétrants, comme dirait l'autre, que l'on va évoquer tout à l'heure, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et surtout Xavier Bertrand, étaient déjà assez hauts dans les enquêtes d'opinion avant leur succès au régional. Moi, dans notre dernier baromètre politique Odoxa, réalisé juste après les régionales, auprès des sympathisants de droite, ils gagnent une dizaine de points chacun. Et ils se rapprochent des deux favoris des sympathisants, des anciens, Nicolas Sarkozy, et puis une surprise, Édouard Philippe. Juste un mot quand même, quand on parle des primaires, il y a une primaire qu'on n'a pas abordée, c'est la dernière. La dernière primaire de droite, finalement, il y avait des favoris qui n'étaient pas forcément ceux dont les élections ont accouché. On parlait beaucoup de Nicolas Sarkozy qui n'était pas si haut dans les enquêtes d'opinion. Mmh. On parlait beaucoup d'Alain Juppé qui a fini par perdre. Et puis finalement, il y a eu la révélation François Fillon. Et on peut dire qu'avant de se fracasser sur le sujet des affaires, eh bien, le succès de François Fillon à la primaire de droite lui a permis un sacré boost dans l'opinion.
Allez, quel candidat à droite en 2022 et surtout, quelles idées pour 2022 pour la droite? On va vous écouter, bien évidemment, vous aussi, 3921. Vous nous appelez. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
À 19h30, où va la droite? C'est le thème ce soir dans le Club des idées avec Roland Carol, le directeur de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po, Gaël Sliman, le président d'Odoxa, et Brice Hortefeux, l'eurodéputé Les Républicains. Et bien sûr, avec vous, c'est important, 3921, vous prenez la parole. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir, bonsoir et merci de me prendre à l'antenne.
Vous nous appelez d'Arcachon.
Voilà.
Et vous êtes électeur de droite?
Oui, mais je vous dirais honnêtement, je pense que maintenant, malheureusement, la droite n'existe plus, si on peut dire. Hein. Vous savez, elle est un peu comme le PS. Hein. Mais les partis politiques, hein, les opinions, enfin, toutes les mouvements politiques connaissent tous des voix comme ça. Parce que, si vous voulez, je ne vois plus trop maintenant la différence. Vous prenez la politique de Macron, regardez, Macron, 2018, a réussi à démanteler SNCF en société anonyme. Ça s'est passé, ce que la droite n'a jamais réussi à faire. Donc, il a fait vraiment une... disons des attitudes de droite. Là, il va réformer les retraites parce que c'est sûr et certain en deux coups. Donc, si vous voulez, je ne vois plus où la droite peut se positionner maintenant.
Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Que la droite a du mal à se positionner finalement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est ce que vous dites. Et qui a abîmé la droite? Qui a abîmé la droite?
Ah, ben écoutez, moi je vous dirais. Honnêtement, c'est la droite qui a abîmé la droite.
D'accord.
Parce que franchement, je crois que le bilan Sarkozy, pour qu'on arrive, je vais être peut-être un peu, mais on arrive à...
Bien sûr, parce que Brice Hortefeux
vous écoute. Il y a quelqu'un comme Hollande à la place contre Sarkozy. Si vous voulez, moi, ça m'a quand même interpellé l'histoire. Je pense que Sarkozy, avec l'histoire aussi du traité de Lisbonne et tout ça, quand même avec le référendum, je pense que c'est mal passé.
Juste rapidement, Frédéric, dites-nous, vous, l'an prochain, vous voterez, vous êtes électeur de droite, donc vous voterez pour qui, là, en l'état des choses?
S'il y a un candidat de droite, bien sûr, je voterai pour lui, sans grande conviction, mais bon, par honnêteté, quand même. Bon. Hein. Mais je ne vois pas comment... Je ne vois pas tellement le programme vraiment différent de la droite par rapport à Macron. Si vous voulez, alors, j'aime pas spécialement Macron, c'est pas ça, mais regardez, au niveau, il a un Premier ministre de droite, il a réussi à, si vous voulez, quand même. Et puis, il y a eu le problème Fillon aussi, ça s'est quand même très très mal terminé. Je pense que tout ça, ça fait beaucoup de mal.
Merci.
Et maintenant, la droite dite républicaine, allez, je pense qu'il faut un petit peu de sommeil, comme le
merci,
PS.
Merci à vous. Merci infiniment.
Je vous en prie.
Merci Frédéric de nous avoir appelé d'Arcachon. Brice Hortefeux, vous venez d'écouter Frédéric, donc un militant de votre parti. Qu'est-ce que vous répondez finalement à Frédéric? Et c'est vrai que la réalité, c'est quelle place vous pouvez trouver entre Emmanuel Macron qui vous a... Piquet, Gérald Darmanin, Jean Castex et tant d'autres, et sur votre extrême droite, Marine Le Pen.
Non, mais ce que vient de dire Frédéric, d'ailleurs, est très intéressant et plein de bon sens. D'abord, il dit qu'il continuera à voter pour le candidat de droite. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de transformer cela et que ça soit un vote qui soit un vote de conviction. Mmh. Il dit qu'il ne voit pas bien la différence. Je pourrais vous donner 10 exemples de différence, mais je vais prendre celui qui est dans l'actualité, dont vous parlez régulièrement à juste titre. La réforme des retraites. Mmh. Si vous regardez tous les gouvernements de droite, président Chirac, Nicolas Sarkozy, François Fillon, ministre des Affaires sociales, tous, le gouvernement Balladur, tous, ils ont apporté une pierre à l'indispensable réforme des retraites. Je ne reviens pas sur pourquoi le coût, les 320 milliards, ainsi de suite. Tout le monde a conscience qu'il faut réformer. Le seul qui, jusqu'à ce jour, n'est pas réformé, et ma conviction, c'est qu'il ne fera pas grand-chose, le seul qui n'a pas réformé, c'est précisément Emmanuel Macron.
Ouais.
Et qui avait été élu sur le thème... la nouveauté, le vent de la modernité,
après,
et la capacité
à réformer. Les Gilets jaunes et la pandémie, ça fait beaucoup dans un quinquennat.
Non mais attendez, sur les retraites, c'est un exemple sur un sujet majeur, c'est le seul qui n'a rien fait.
Brice
en réalité, vous savez, je pense qu'on avait... Attendez, oui, je pense que Frédéric a dit ce que beaucoup de Français pensent, et qu'Emmanuel Macron, c'était de la fraîcheur. Ouais. Et à l'arrivée, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'amateurisme.
Rapidement, Brice Hortefeux, parce que vous avez été ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, quelle est votre différence, vous, à droite, les Républicains, entre la politique menée par Gérald Darmanin actuellement, qui vient de chez vous, qui est un de vos camarades, qui est très proche de Nicolas Sarkozy, et finalement Marine Le Pen. Votre espace là, en matière de sécurité, en matière de qu'est-ce que vous pourriez faire?
Mais je vous donne un exemple très simple. Il a la responsabilité des questions migratoires. Oui. Aujourd'hui, il y a un désordre migratoire sans précédent.
Oui.
Pas vous inonder de chiffres. En 2011, il y avait 182 000 titres de séjour. Mmh. Sur la dernière année complète, 2019, on en est à 272 000. Ben, je vous dis très simplement, nous ne ferions pas aujourd'hui la même politique que celle qui conduit à ça, c'est-à-dire, en gros, c'est pas le lieu de faire un débat sur ces sujets, mais enfin, la réalité du bilan Macron sur les questions migratoires, ça sera 1 800 000 à 2 millions de migrants supplémentaires. Ben voilà un exemple, nous ne ferions absolument pas la même chose.
Allez, la parole circule, Roland Cayrol. La question est vraiment celle-ci, c'est-à-dire que sur ces questions de sécurité, par exemple, l'espace, il existe aujourd'hui entre, pour la droite, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen?
Non, je crois que ce qui existe... D'abord, il existe une chose, c'est que même les électeurs de droite qui sont les plus proches sur le contenu de la politique de Macron, il leur arrive très fréquemment de ne pas aimer Macron, de détester Macron et fou. Même parfois de le haïr. Je parle sous le contrôle du sondeur en activité en face de moi. Donc, il y a ça hein, sur quoi il faut compter. Et puis, il y a une base idéologique. C'est clair qu'il existe en France une droite modérée, républicaine, qu'il existe un centre qui pense qu'ils ont leur place et qu'il faut tenir compte de ces couches idéologiques diverses du pays. Ce n'est pas parce qu'un coup, on a réussi à faire et gauche et droite qu'on est sûr de le réussir à chaque coup. Donc, comme le disait Frédéric, en effet, en terminant, malgré toutes ces critiques, finalement, il votera pour la famille. Et c'est ça qui est important. Le problème me paraît plutôt de savoir comment on fait, parce que là, Brice Hortefeux nous rappelait qu'il y a déjà eu deux candidats. Cette fois-ci, ce n'est pas possible. Si on part pour gagner, et non pas juste pour figurer, si on part pour gagner, il ne peut pas y avoir de candidat de droite, parce qu'ils perdront tous les deux. L'un fera perdre l'autre. Donc, il faut être dans les 20% pour espérer être au second tour. Et donc, le problème qui est posé là, et on le sait tous bien, et qui est brûlant, et qu'ils ont remis à fin septembre pour le moment, c'est comment faire pour qu'il n'y en ait qu'un.
Exactement.
Dans la mesure où Xavier Bertrand a déjà dit, lui, 20 fois, moi j'y suis, j'y reste et j'y resterai quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive.
Et où en face les autres disent, on va essayer de trouver un autre moyen qui sera peut-être une primaire, peut-être pas une primaire, à mon avis, plutôt pas une primaire. Ouais. Un bidule pour arriver à le dégager. Et ceux qui ne sont pas membres des Républicains, mais qui participent à ces discussions avec le bureau politique des Républicains, Valérie Pécresse par exemple, dans la mesure où vous participez à toutes les discussions pour savoir comment on fait, si finalement vous dites « Ah ben finalement, j'attends pas la fin de ce truc, j'y vais moi-même », vous êtes un peu déqualifié. C'est très compliqué.
On va reparler dans un instant, bien sûr, de ces primaires Gaël Sliman. Juste avant de marquer une pause, la question, le corpus idéologique de la droite, aujourd'hui, on est à 10 mois de la présidentielle, il est encore totalement à travailler.
Oui, il est
à retravailler.
Il est à travailler, il est à affirmer. Mais je rejoins à la fois ce que disait Roland Cayrol il y a un instant et l'intervention de votre auditeur. La droite reste la droite, les électeurs, et c'est pourquoi ce que retenait Brice Hortefeux du propos de son électeur, si j'ose dire. Peu importe qu'il y ait des proximités réelles chez bon nombre d'électeurs de droite avec la politique économique d'Emmanuel Macron, plus d'ailleurs qu'avec la politique liée à la sécurité ou l'immigration. Donc, pour vous répondre, malgré les proximités économiques, et même s'il y avait davantage de proximités sur les questions de sécurité et d'immigration qu'il y en a aujourd'hui, l'électeur de droite, si on lui présente un candidat de droite légitime, valable à ses yeux, il aura envie de voter pour lui. Tout l'enjeu, ce sont les fameux trois points qu'évoquait Roland Cayrol il y a un instant. C'est-à-dire, si ce candidat de droite, admettons Xavier Bertrand pour l'instant, se retrouvait à 6 points d'Emmanuel Macron, eh bien l'enjeu c'est de lui prendre 3 points, pas 6. Pour se remettre à son niveau et passer la barre des 20%.
Allez, qui pour incarner la droite en 2022? Primaire, pas primaire, on en parle dans un instant. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, 19h40 sur Europe 1, la suite de votre club des idées. Où va la droite? On va parler maintenant avec Roland Cayrol, directeur de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po, Gaël Sliman, président d'Odoxa, et Brice Hortefeux, eurodéputé Les Républicains. On va parler maintenant de la candidature, bien sûr, qui pour représenter la droite en 2022? Et bien sûr, des primaires ou pas. Xavier Bertrand, on en parle beaucoup. Lui, voilà ce qu'il disait d'ailleurs. La question des primaires, on le sait, Xavier Bertrand n'en veut pas. C'était sur TF1 mardi soir.
Je ne serai pas candidat à une primaire. La primaire, elle n'a pas laissé que des bons souvenirs, hein, à droite. Elle a été source de division. On voit bien que ce sont plus souvent des machines à perdre.
Et pourtant, voilà ce qu'il disait en 2013. En 2013, Xavier Bertrand.
Pourquoi un candidat aujourd'hui craindrait les primaires? Les primaires, c'est une formidable chose. D'ailleurs, j'ai toujours été un militant des primaires.
Voilà, Brice Hortefeux, primaire en note.
Je ne me souvenais pas, à vrai dire, de cette déclaration de Xavier Bertrand. Je ne manquerai pas de m'y référer, moi aussi. La réalité, c'est très simple. C'est que nous avons plusieurs personnalités qui sont des personnalités complémentaires. Mmh. Et je le dis, c'est mon opinion, de talent. Bien sûr, il y a Bruno Retailleau, bien sûr, il y a Valérie Pécresse, bien sûr, il peut y avoir Laurent Wauquiez, qui a remporté un très beau succès, bien sûr, il y a Michel Barnier. Donc, il faut se mettre d'accord sur un processus. Le mot primaire, nous l'avons volontairement écarté, et les mots comptent, on a la chance d'avoir une langue riche, donc il faut pouvoir puiser dedans.
Ça laisse de mauvais souvenirs chez les Républicains?
Non. Mais pas du tout, parce que naturellement, c'est une fable, l'histoire que l'on a perdu l'élection présidentielle en 2017 à cause des primaires. Et naturellement, c'est une totale mauvaise foi de ceux qui osent prononcer ce qui est une contre-vérité. On a perdu la primaire, on a perdu l'élection présidentielle, alors que nous étions rassemblés derrière un candidat. Moi, c'était pas le mien, mais ça fait rien. Je le soutenais, François Fillon. Et c'est une toute autre histoire qui explique l'échec. Donc c'est naturellement un mensonge total d'expliquer qu'on a perdu à cause de la primaire. En revanche, on a écarté le mot parce qu'effectivement, ça avait laissé un mauvais souvenir. Et pourquoi ça avait laissé un mauvais souvenir? Parce qu'il y avait des gens qui étaient venus voter avec se prenant pour des Machiavel ou Petit Pied. Ils étaient de gauche et qui venaient fausser. J'ai lu une enquête montrant que c'était 14% des gens qui s'étaient déplacés à la primaire, qui s'étaient dit qu'ils étaient des génies de la vie politique en faussant le résultat. Et donc, il faut corriger un peu cela et mettre en place donc ce processus de rassemblement.
Certes.
Les choses sont très simples. Là, vous avez plaisanté un peu avec ce qui était évoqué. Non, il y a un mécanisme qui sera proposé à la fin du mois de juillet par Jean Leonetti, le maire d'Antibes, et on se mettra d'accord. Et ne vous y trompez pas, on aura un candidat issu de cette consultation en novembre, comme ça s'est toujours fait.
Mais Brice Hortefeux, vous, une confidence, vous êtes pour ou contre ces primaires et vous êtes pour quel candidat aujourd'hui? Vous étiez derrière Nicolas Sarkozy, vous avez été son compagnon de route. Aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans quel candidat parmi les noms que vous avez cités?
Bon, d'abord, moi, vous l'avez dit, moi j'ai décidé il y a très longtemps d'être sarkozyste et je n'ai pas l'intention de changer, donc je ne bouge pas. Donc mon candidat préféré aurait été Nicolas Sarkozy.
Voilà. Mais aujourd'hui, dites-moi clairement.
Si jamais ce n'est pas le cas,
dites-moi clairement les choses.
Mais là, aujourd'hui, je vous dis, il y a plusieurs personnalités
ça m'a pas échappé.
Et qui acceptent tous le principe d'un processus de rassemblement.
D'accord.
Moi, je conteste totalement la démarche qui consiste à dire je me fiche de l'opinion, je me fiche de l'organisation, je me fiche de la consultation, je me fiche de la démocratie, je me fiche du choix et j'irai jusqu'au bout.
D'accord.
D'abord, je ne crois pas. Vous savez, dans la vie politique, moi, j'ai appris une chose, c'est qu'on dit qu'on va jusqu'au bout jusqu'au moment où on s'arrête.
Merci.
C'est ça la réalité de la vie politique. Donc, je soutiens aujourd'hui les candidats qui participeront à ce processus.
Brice Hortefeux, ça va être intéressant. Écoutez Gaël Sliman, président d'Odoxa, parce qu'il vient de réaliser justement un sondage sur des primaires potentielles. Gaël.
Ouais, sur l'organisation de ces primaires de la droite et du centre. Alors, sur le principe, les Français, et surtout ceux qui nous intéressent ici et qui sont les plus concernés, les sympathisants de la droite et du centre, sont très partagés sur l'opportunité de cela. Ils sont à 50-50. Vous savez, quand on est sondeur, on déteste ce type de résultat à 50-50 parce qu'on est incapable de trancher. Chez les sympathisants LR, 51% disent qu'ils y sont opposés, 48% qu'ils y sont favorables. Donc, c'est possible de les convaincre, mais pour le moment, il y a une prise de distance par rapport à ce sujet des primaires. Et quand on essaye de comprendre pourquoi, on va retrouver un élément qui a été indiqué à l'instant par, par Brice Hortefeux, qui est ce qu'il qualifie de mensonge et qui, objectivement, paraît effectivement assez faux. C'est-à-dire cette idée selon laquelle les primaires seraient, auraient causé la défaite du candidat de la droite, puisque je rappelle juste d'un mot que François Fillon, quand il a remporté la primaire de droite, ce n'était pas le favori de départ. Quand il l'a remporté, il s'est retrouvé boosté dans les enquêtes d'opinion sur la présidentielle. Il est monté à quasiment 30% dans les intentions de vote de premier tour. Et effectivement, ce n'est qu'ensuite qu'il s'est effondré. Mais peu importe, cette fable, comme disait Brice Hortefeux, est largement répandue dans l'opinion de droite. Et on a une majorité, une courte majorité, mais une majorité de sympathisants LR qui partagent ce sentiment. Et du coup, on en arrive à la chute et à la position de Xavier Bertrand qui semble assez délicate, consistant à dire « j'irai quoi qu'il arrive et je me moque qu'il y ait une primaire ». Eh bien, il y a une majorité de sympathisants de droite, courte majorité, mais une majorité quand même, qui lui donne plutôt raison en disant « oui, il a raison » parce qu'il craignent la division et ils craignent la défaite produite par la primaire.
Roland Quayrol, on va terminer avec vous. Il reste deux minutes, un peu moins de deux minutes. Je voudrais juste... voilà, quels sont les travaux d'Hercule, des Républicains, pour ces 10 prochains mois ?
Faire un programme, parce que voilà, il suffit pas de dire qu'il y a une couche idéologique qui existe dans la société, il faut la représenter avec des propositions sur qu'est-ce qu'on fait de la France dans les 5 prochaines années,
comment on se démarque,
si c'est nous, comment on se démarque des deux autres blocs, qu'est-ce qui nous définit réellement, et puis qui y va. Et sur qui y va, moi je veux bien qu'on n'emploie pas le mot de primaire, comme le ferait Brice Hortefeux en disant « prenons pas le mot », mais il veut pas non plus prendre la chose, parce que qu'est-ce que c'est qu'un autre processus de rassemblement que les primaires. La question c'est, est-ce qu'on met ou pas les électeurs, les sympathisants dans le coup, ou est-ce qu'on reste entre soi dans le parti ? Je crois que les partis n'ont plus une telle bonne presse dans l'opinion qu'on puisse se limiter au parti. Et du coup, si on veut vraiment faire un processus de rassemblement, il faut faire quelque chose qui ressemble aux primaires. Et dans ces cas-là, il y a une loi assez simple qu'on a vécue aux États-Unis, en Italie, en France, c'est que si vous faites une primaire où viennent, par exemple, 4 millions de personnes, c'est le plus modéré qui a une chance de l'emporter. Parce qu'on va très loin par rapport au cœur du parti. Ouais. On va vers les sympathisants qui sont plus modérés, qui ne sont pas très attachés au logos du parti. Si vous avez une petite primaire, alors c'est celui qui est le plus rude et qui ressemble le plus au parti. Je vais prendre un exemple à gauche rapidement. Oui. C'est Hollande qui a gagné quand il y avait 4 millions et c'est Hamon qui a gagné quand il n'y avait qu'un million et demi.
C'était passionnant. Merci à vous. On va bien sûr en reparler encore et encore. Roland Quayrol, Gaël Sliman et Brice Hortefeux ce soir. Un grand merci. Merci à vous trois. Dans un instant, le jour où, mais d'abord un peu de musique, Nouveau Monde, le groupe Feu Chatterton. Bon début de soirée sur Europe 1.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central, amour. Comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Nouveau, on en rêve tous. Mais que savions-nous?
Chatterton sur Europe 1, ils seront au Festival des Vieilles Charrues avec Europe 1 le 14 juillet. Programmation et billetterie sur vieillescharrues.asso.fr. Et puis n'oubliez pas, hein, on retrouvera ce soir Émilie Mazoyer en direct des Vieilles Charrues à partir de 22h.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le jour où, avec les archives d'Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h52, le jour où, tous les soirs, on s'arrête sur un événement du passé, une date, une histoire. Ce soir, Julien Bugier et Rémi Bossaron reviennent sur le duo, mythique duo Bourvil de Finesse. Quel duo.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir Rémi Bottesaron.
Bonsoir Julien.
Alors, on est le 27 janvier 83, il y a 38 ans exactement, et on va revenir à travers la disparition de l'un des plus grands acteurs comiques français, Louis de Funès, pour ne pas le citer. On va revenir sur un duo de choc du cinéma français, Louis de Funès et Bourvil.
Et oui, cette disparition de Funès, c'est donc le 27 janvier au soir. Il est victime d'une crise cardiaque et dès le lendemain, les hommages affluent sur l'antenne d'Europe 1, notamment celui du réalisateur Gérard Oury.
De Funès, c'est un personnage qui m'a fait rire, mais à pleurer. Et il se trouve que quand j'ai eu l'idée du Cornio, j'avais tourné avec Bourvil comme comédien. Il m'a dit, à qui penses-tu pour l'autre rôle? J'ai dit, écoute, j'ai pensé à De Funès. Et il m'a dit, moi j'aimerais beaucoup tourner avec De Funès. Et quand j'ai été trouvé De Funès, il m'a dit, écoute, c'est très amusant et j'adorerais tourner avec Bourvil. Mais
on l'entend quand il évoque De Funès, il évoque aussi forcément Bourvil, disparu lui quelques années avant.
Et il faut dire qu'ils ont tourné 5 films ensemble. Alors d'abord dans les années 50, Poisson d'avril, Les Hussards, La Traversée de Paris, mais surtout dans les années 60, les deux plus grands succès de De Funès, à commencer par Le Cornio.
Franchement, on l'a vu des dizaines de fois, mais le film,
ça marche
toujours bien. Ouais. Cette scène est entrée dans l'histoire, Rémi, du cinéma, mais en fait, De Funès et Bourvil n'ont pas du tout le même statut à l'époque.
Ah non, quand il tourne Le Cornio en 64, Bourvil est déjà une star. De Funès, lui, est encore un second rôle. On est juste avant la sortie du Gendarme de Saint-Tropez. Et cette différence de statut va poser problème sur le tournage. Un jour, De Funès regarde les rushs et il se rend compte que Bourvil a beaucoup plus de scènes que lui. Alors, il décide de faire la grève du masque. C'est-à-dire qu'il décide de ne plus faire de mimiques ou de grimaces, bref, tout ce qui fait son succès.
Et ça marche ?
Eh bien oui, il obtient 2 scènes supplémentaires écrites pour lui, notamment celle où il se retrouve dans la douche d'un camping à côté d'un impressionnant culturiste, une scène burlesque où il se moque lui-même de son physique de gringalet, une scène qu'il évoque avec Bourvil quand il se retrouve sur l'antenne d'Europe 1 en 66, émission étonnante où les deux hommes parlent ensemble de leur parcours, de leur vie, et notamment du régime entrepris alors par De Funès.
J'ai perdu 2 kilos, par exemple. À un moment, je les ai repris depuis.
Mmh. Ah oui, c'était... Pourtant, dans le Cornio, là, quand tu te déshabillais à côté de...
Duranton.
C'était pas mal.
C'est pas mal.
Enfin, il faut s'y faire, quoi. Enfin...
Même en interview, quand ils sont normaux, on a l'impression qu'ils jouent un rôle. C'est assez génial. Visiblement, ils s'entendaient très bien, en tout cas.
Oui, même s'ils ne se voyaient jamais, en fait, en dehors des tournages, c'est ce qu'ils disent. La complicité est pourtant évidente sur notre antenne ce jour-là. On est alors au lendemain de la première projection de La Grande Vadrouille.
Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là.
Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte.
Quoi ?
Que vous me prêtiez vos souliers.
Bah, vous chaussez du combien ?
J'ai du comme vous.
Ah bon ?
Ah, ben là, ça va mieux.
Ça marche aussi toujours.
Oui, ouais, ça marche très très bien.
La Grande Vadrouille qui est donc présentée pour la première fois en décembre 66 à Paris.
Tu étais hier soir à la première de La Grande Vadrouille.
Oui. Ah, j'ai eu beaucoup de succès. Oui.
Oui. Qu'est-ce qu'ils disaient en sortant les gens?
Oh, De Funès, De Funès.
Ah bon?
C'était gêné un peu. J'étais un petit peu gêné. Quoi.
Non, mais blague à part. Personnellement, toi, est-ce qu'il te plaît autant que Cornio?
Il me plaît plus.
Et ça fera encore plus de succès que Le Cornio. La Grande Vadrouille est un triomphe et on s'occupe les deux, Le Cornio et La Grande Vadrouille. Pour ce duo De Funès-Bourvil, ça donne plus de 30 millions de spectateurs en salle.
Le jour où signé ce soir, Julien Bugier, Rémi Bossaron.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Alors, le programme de votre soirée à 22h, Émile Mazoyer, depuis le Festival des Vieilles Charrues, donc, à ne pas rater surtout, mais juste avant, Europe 1 Football Club, salut Lionel Rousseau.
Bonsoir Thierry Dagiral. Ça va très bien, joli programme, ce soir pas de match, vous le savez, on connaît l'affiche de la finale qui aura lieu dimanche, ce sera sur Europe 1 en intégralité entre l'Italie et l'Angleterre, mais des invités, on va revenir évidemment sur... ces Anglais qui méritent vraiment la finale, on met un petit point d'interrogation parce que le pénalty contre les Danois était très très limite. On va en parler évidemment avec nos experts, Marc Libra, Patrick Julliard, Aline Riera et Giroud. On reviendra aussi sur le fait que Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France au moins jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Mm-hmm. Et puis on aura un invité particulier, Marius Trésor. Oh, vous vous souvenez de Marius Trésor?
Bien sûr, oui.
Libéraux de l'équipe de France notamment. Il vient de faire paraître une biographie et puis il va raconter ses souvenirs et puis analyser également cet Euro, le parcours de l'équipe de France, mais également l'Italie et l'Angleterre. Et puis on écoutera sans doute ce qui a été son tube pendant très longtemps, ce que vous fredonnez régulièrement, Thierry, je le sais. Sacré Marius.
À tout à l'heure, Lionel Rousseau. Merci beaucoup. Foot et Musing, ce soir, c'est quand même un beau programme. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Merci à Naïma Bencheman, à Victor Chabert, à Vincent Thévenet qui travaille dur derrière. L'info dans un instant avec Fanny Marceau. Belle soirée à tous, à demain.